Louisita, chapitre 3. 8 jours après l'arrivée de Louisita, la ferme et le village gravitaient autour d'elle, comme un petit monde autour d'un soleil nouveau. Le régent s'ingéniait à trouver des prétextes pour s'introduire chez les Baudruses, d'où il ne démarrait pas, expliquant avec une grande éloquence ses idées sur toutes choses, étalant son savoir, bombant sa poitrine dans son veston neuf et tripotant le nœud de sa cravate verte. D'un autre côté, le fils du syndic passait et repassait sur la grande route avec des airs de chien qui braconne, en regardant vers la ferme comme si son père n'avait pas été depuis des années à couteau tiré avec les propriétaires. Le médecin lui-même, quand il venait examiner l'hydropisie de la mère Lancy, faisait lentement comme le pasteur et passait le long du potager des Baudruses sous prétexte de gagner du temps. Il n'y avait pas jusqu'au garde champêtre qui, malgré sa barbe grise et sa jambe de bois, ne mit un zèle inaccoutumé à surveiller leur verger. À la pinte, devant les maisons, aux heures où l'on babille, aux veillées du soir, on ne parlait que de l'Espagnol qui tournait la tête à tous les garçons. Vis-à-vis des autres, Pierre et Gaspard se tenaient sur la défensive, comme des gens qui ont un trésor à garder. Même, ils commencèrent bientôt à s'observer l'un l'autre avec méfiance. Elle, cependant, pareille à ces astres errants qui se promènent dans l'infini sans se douter qu'ils balayent des étoiles, tâchait simplement de s'accommoder à son nouvel état et de gagner les bonnes grâces de sa famille d'adoption. Avec ses grands yeux noirs où passaient des flammes, avec sa peau blanche qui résistait aux halles du grand air et conservait sa finesse veloutée, avec toute cette beauté qu'elle avait apportée de son autre hémisphère, elle était une petite personne pleine de bon sens, de bonne volonté, de sagesse. Son oncle, dès l'arrivée, lui avait dit « Il faudra te mettre au pas et faire comme les autres. » Et bravement, en jupe de coton, en tablier bleu, sa splendide chevelure cachée par un chapeau de campagne, elle tâchait de s'occuper aux champs ou réclamer sa part des travaux du ménage. Mais, soit qu'elle épluchât des légumes pour la soupe, ou qu'elle jetât des grains aux poules qui apprirent bien vite à la connaître, ou même qu'elle portât le manger aux cochons, elle avait toujours l'air d'une princesse, prisonnière, réduite au rôle de servante par des vainqueurs barbares, comme on en voit dans les vieilles histoires. Qu'il lui arriva seulement de retrousser ses manches pour un savonnage, et c'était un délice de voir apparaître ses bras de déesse. Les plus grossiers ne pouvaient la regarder patauger dans la boue de la cour, autour de l'étang, sans avoir envie de la porter dans leurs bras pour épargner ses petits pieds. Devant elle, ses deux cousins filaient doux, comme des bêtes domptées qui ont peur. Le père Baudruse la suivait de regards perplexes et bienveillants, en se demandant comment ce diable de Charles-Alexandre avait pu s'y prendre pour avoir une telle fille. Les valets, pleins de respect, n'osaient pas lui adresser la parole. Seule, Julie la regardait de travers, lui lançait des colibés, s'efforçait de l'humilier. Et son antipathie agressive augmentait en raison de la douceur de Louisita, car, par indolence ou par timidité, la jeune fille subissait sans révolte les mauvais procédés de sa cousine, comme si elle ne s'en apercevait pas. Un jour que Julie lui faisait une scène devant l'étang à propos d'un mouchoir perdu dans la lessive, Pierre survint inopinément. Il écouta, tout pâle, les cris de sa femme, qui piaillait comme une pie en colère et dévidait un interminable écheveau de méchanceté, excité par le silence dédaigneux ou résigné de sa victime. « Et tu fais la fière avec ça, des airs de reine, comme si on ne savait pas d'où tu viens. Tu ne réponds pas à ce qu'on te dit. Tu restes là comme une dinde, gonflée d'orgueil, à nous mépriser. Toi qui manges notre pain. Toi qui serais à la rue si... » Un vigoureux soufflet lui coupa la parole. elle vit devant elle son mari, qui jamais encore ne l'avait battue, même les soirs d'ivresse. La main levée, les lèvres serrées, les yeux menaçants et silencieux. Car il y a des choses qui s'entendent sans qu'on ait besoin de les exprimer. Elle recula lentement, en le regardant, comme si elle lisait ce qui se passait en lui, la main sur sa joue brûlante. De grosses larmes montèrent à ses yeux durs. Le dos plié, la tête basse, elle rentra dans la maison. Pierre, honteux de sa brutalité, tremblait devant sa cousine, qui lui tourna le dos et s'en alla sans rien dire. À la suite de cette scène, il devint irritable et sombre. Comme on était dans la saison de la chasse, il partait presque tous les jours avec son fusil, sans que son père même osât lui rappeler que l'ouvrage ne manquait pas à la ferme. Et il rentrait tard le soir, sa gibecière vide, mais la tête perdue à force d'avoir bu en chemin. À la moindre observation, il se mettait en fureur, jurait, agitait ses gros poings, roulait des yeux de possédé, en sorte que personne ne lui adressait la parole. Mais, dès qu'il apercevait sa cousine, il se faisait timide et doux comme un agneau. Ainsi, il changeait si souvent d'humeur qu'on n'y comprenait rien, sauf Julie, qui lisait dans le cœur de son mari comme dans un livre ouvert, et peut-être Gaspard, qui tournait aussi à la mélancolie, bien qu'il n'allât jamais noyer ses chagrins dans les caves. En sorte qu'il y avait dans la ferme comme une atmosphère chargée et malsaine, dont les étrangers même sentaient la lourdeur. Quand quelqu'un demandait à la peinte ou au lavoir « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez les Baudrus ?» Les gens se regardaient sans répondre, avec ces airs qu'on prend pour parler des malades qui ne vont pas. Si bien que le pasteur crut devoir avertir le père Baudrus, et lui dit un jour, en revenant de faire sa visite hebdomadaire à la mère Lancy, « Puisque je vous rencontre seul, monsieur Baudrus, j'en profiterai pour vous dire une chose qui me préoccupe depuis quelque temps, bien que cela ne me regarde pas. Je crois qu'il vous faudrait prendre garde à votre nièce. Elle est très jolie et pas comme les autres. » Le vieux paysan n'aimait pas qu'on se mêlât de ses affaires. Il répondit d'un ton bourru « Eh, que voulez-vous que j'y fasse, monsieur le pasteur ? Je ne peux pourtant pas lui crever les yeux ou lui tondre la tête. » « Sans doute, vous n'y pouvez rien. Mais quel dommage qu'elle soit si jolie. Cela n'est pas de sa condition. Je suis sûr que vous vous en rendez compte. Tenez, le dimanche, quand elle est au culte, les garçons ne m'écoutent plus. Je les vois qui s'agitent, qui se retournent. Le régent se met à chanter faux. Et voulez-vous que je lui défende d'aller à l'église ? Moi, vous savez... Je ne dis pas cela, monsieur Baudrus, certes non. Tout ce que je désire, c'est que vous soyez prévenu. Le cas n'est pas facile, je le reconnais. Il faut que vous y réfléchissiez. » Peu de jours après cette conversation, le père Baudrus dut reconnaître que, pour une fois, le pasteur pouvait avoir raison. Ce fut justement le dimanche qui suivit, après le culte. Le régent, qui regardait toujours du même côté, comme une poule à laquelle on montre un point blanc sur une ardoise, avait oublié de marquer la mesure pendant le dernier psaume. À la sortie, frais, pimpant, le menton bien rasé, la moustache relevée, son chapeau mou flambant neuf sur l'oreille, il s'approcha de Louisita, qui se préparait à rentrer seule à la ferme. Sa cousine ne l'accompagnait jamais. Les filles du village évitaient de causer avec elle, et le père Baudrus avait retenu ses fils pour nettoyer l'étang. Il la salua et se mit à marcher à côté d'elle, en parlant de la pluie et du beau temps, sans se soucier des commères ni des membres de la commission d'école qui écarquillaient les yeux sur son passage. « Eh bien, mademoiselle Louisita, est-ce que vous vous acclimatez dans notre pays ? Avez-vous de l'ennui, quelquefois ? Regrettez-vous l'Amérique ?» Plus jolie encore que de coutume avec son rien de toilette, le ruban bleu de son corsage, la pauvre petite fleur de son chapeau du dimanche. La jeune fille répondait sans entrain, en pressant le pas, en cachant de son mieux ses grands yeux noirs sous ses longs cils. Sans se laisser rebuter par cette froideur, le régent faisait à lui seul tous les frais de la conversation. « Ah, notre pays n'est pas comme celui que vous avez quitté. Vous devez vous apercevoir de la différence, n'est-ce pas? Voulez-vous me permettre de porter votre psautier ?»«
Non, merci, monsieur. »
Tout en descendant vers la grande route, par le chemin qui traverse les vignes dépouillées, il se mit à lui raconter l'histoire de l'église, une très vieille église qui datait du Moyen-Âge. En ce temps-là, elle se trouvait au milieu du village. Et puis, avec les siècles, le village était descendu, en l'abandonnant, avec son vieux cimetière où l'on ne portait plus les morts. Louisita n'avait pas répondu 20 paroles quand ils arrivèrent devant le portail toujours ouvert au haut de l'avenue des Noyers. Au lieu de la quitter, là, le régent continua à babiller en la tenant debout à côté de lui, comme s'il ne pouvait se résoudre à lui dire adieu. Personne ne passait sur la route, dont le large ruban grisâtre fuyait entre les vignes, et il aurait souhaité que ce moment durât toujours. Mais le malheur voulut que Pierre, qui guettait le retour de sa cousine, s'avisa de venir au-devant d'elle, en longeant la haie de clôture, toute rouge de cynorhodon. Quand il avisa le couple, le régent qui faisait le joli cœur avec son chapeau sur l'oreille et Louisita qui baissait les yeux, la tête un peu penchée, il vit rouge, arriva sur eux comme un taureau et se planta devant le régent en roulant des yeux furieux. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Le régent répondit « Je ne suis pas dans ton pré, je suis sur la route. La route est à tout le monde. »« Ah, tu crois ça? Je vais t'y montrer, si tu ne files pas tout de suite. » Louisita, effrayée des regards menaçants de son cousin, joignit les mains en suppliant « Pierre, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as donc ?» Pierre ne l'écoutait pas. Au lieu de trembler au son de sa voix comme un gros chien craintif, il répéta, le poing sous le nez du régent, « Je te dis que tu vas filer tout de suite, mille bombes, ou bien... » Quoique Pierre passât pour un rude luron, le régent se sentait plein de courage. Il croisa les bras sur sa poitrine, qui manquait d'ampleur, et demanda d'un ton provoquant « Ou bien... »«
Je cogne !»«
Brute, va !» Le mot n'était pas lâché que Pierre se jetait sur lui de toute sa force. Louisita, prise d'effroi, appela au secours. D'abord, Pierre essaya de saisir son adversaire à bras-le-corps, croyant renverser d'un tour de main ce gringalet gêné dans ses beaux habits, dont le chapeau neuf s'envola d'emblée. Mais le régent, plus faible sans contredit, était leste et plein de ruse. Il glissa comme une anguille entre les bras puissants qui tâchaient de l'étreindre, se mit en garde, comme pour la boxe, para les coups et les rendit. Les poings de Pierre tournoyaient comme s'ils allaient tout casser et s'abattaient dans le vide. Le régent, ménagé de ses moyens, ne frappait qu'à bon escient. L'un tapait plus dur, l'autre plus juste. Et comme l'adresse vaut la force, ils eurent bientôt, l'un comme l'autre, la figure ensanglantée, le corps meurtri. Chaque fois qu'un coup bien porté sonnait comme sur un tambour, Louisita tendait vers eux ses mains jointes.
« Je vous en prie, je vous en prie, Pierre, monsieur !»
Puis elle recommençait à crier au secours. Enfin, ses cris parvinrent jusqu'à la ferme. Julie se montra sur le seuil, vit le combat, leva les bras au ciel en hélant son beau-père, qui accourut avec une fourche. Juste au moment où il arrivait sur le terrain, le régent, à qui la nécessité rappela quelques notions de savate, exécutait une pirouette inattendue en plantant son pied dans l'estomac de Pierre. Bien que lancé par un soulier sans clou, à semelle fine, le coup porta. Pierre tomba à la renverse, comme assommé, le souffle coupé net.
« Ah, oh, bandit !» cria le père Baudruse en brandissant sa fourche. « Tu rues comme un âne. Tu me la paieras, celle-là. Je t'en réponds. » « Il n'avait qu'à me laisser tranquille, » dit le régent hors d'haleine. Pierre, après s'être un instant tordu sur l'herbe, se relevait à demi, trop faible pour recommencer, à peine capable encore de cracher des injures entre ses lèvres blêmes. D'ailleurs, le régent battait en retraite, en commençant à supputer ce que lui coûterait sa victoire. En se retournant, il eut le chagrin de voir Louisita penchée sur le vaincu comme une sœur de charité, soutenant dans ses bras le torse du lutteur abattu. « Mon pauvre Pierre, as-tu bien mal? Ça ne va pas mieux? Dis !» Elle posait sa petite main douce sur le front en sueur. Elle étanchait avec son mouchoir le sang qui coulait du nez. Tout consolé par cette pitié caressante, Pierre répondait, haletant encore, d'une voix faible qu'il n'avait jamais eue, avec des regards soumis que personne ne lui connaissait. « Oui, ça va mieux. Merci, merci. Ça ne sera rien. Ah, le gredin, s'il ne m'avait pas pris par trahison !» Il tendit dans le vide, vers le régent, son poing, que Louisita abattit d'un geste léger et charmant. Julie, que sa grossesse empêchait de se hâter, arrivait à son tour. Elle embrassa le groupe d'un regard furieux et écarta brusquement Louisita en disant « Va-t'en, c'est mon mari !» Et ce fut elle qui ramena Pierre à la ferme, à petits pas. De temps en temps, elle se tournait vers sa cousine d'un air de dogue qui emporte son os. Ses lèvres minces se relevaient sur ses incisives. Elle semblait dire « Toi, tu n'y toucheras pas !» En sorte que la pauvre petite, qui ne pensait à rien de mal, se sentait pourtant aussi honteuse que si elle avait commis une mauvaise action. Gaspard ne s'était pas montré. Quand on lui raconta l'affaire, il s'éloigna en haussant les épaules, l'air tout drôle, sans un mot gentil pour son frère. Tout de suite, la nouvelle du combat se répandit dans le village, commentée par toutes les voix. Ce fut un scandale comme on n'en avait jamais vu. Les uns prirent parti pour les Baudruse, les autres pour le régent. Les femmes unanimes disaient « C'est la faute de cet Espagnol, qui aurait mieux fait de rester dans son pays que de venir semer la discorde par chez nous. » Quant aux hommes, les uns trouvaient que Pierre, une vraie brute, n'avait eu que ce qu'il méritait. Les autres disaient, avec des airs graves, qu'un homme auquel on confie l'instruction de la jeunesse doit rester calme et maître de soi. Pendant plus de 15 jours, on se disputa là-dessus, jusque dans la commission des écoles. Et sans la protection du syndic, le régent aurait eu les ennuis les plus graves. À la fin, comme il arrive toujours, on se calma. Mais les deux combattants ne se rencontraient jamais sans se dévorer des yeux. Et le pasteur dit au père Baudruse, « Vous ne pensez donc pas à marier votre nièce, monsieur Baudruse? Cela serait peut-être une bonne chose. » Cette fois, le père Baudruse n'eut pas la moindre envie d'envoyer promener le pasteur. Il se gratta le menton et proposa « Peut-on vous offrir un verre, monsieur le pasteur, pour mieux causer ?» Le pasteur était pressé ce jour-là, il refusa. « Alors, un de ces jours, si vous aimez mieux. » « Oui, oui, un de ces jours. » Chapitre 4. L'hiver commença. La neige descendit du Jura, enchâssée dans sa gaine blanche, couvrit le sommet boisé des collines, puis les vignes endormies, les toits bas des villages, la plaine, les rives du lac. Et Louisita apprit à connaître le froid. Elle restait une bonne petite fille. Si son corps s'épanouissait comme un fruit mûr, son esprit ne dépassait point son âge et ne comprenait presque rien au branle-bas qui se menait autour d'elle. Aussi jolie en hiver qu'en automne, elle n'était pas plus heureuse dans ce milieu trop différent où le hasard l'avait apportée. Elle sentait peser sur elle la haine sournoise de sa cousine.
Son oncle, qui tâchait pourtant de lui parler avec douceur, l'intimidait. Son cousin Pierre lui faisait peur, et aussi le régent, qu'elle évitait comme un pestiféré. Et encore le fils du syndic, qu'elle trouvait partout sur son chemin, comme une ombre dont on ne peut se défaire, qui se tourne avec vous, s'allonge ou diminue, sans vous quitter jamais. Ce gros garçon, d'aspect un peu niais, avec une épaisse tignasse couleur de chanvre, des joues roses comme des pommes d'api, de petits yeux éteints et clignotants, lui causait une appréhension constante. Elle se disait que, si Pierre le découvrait un jour derrière ses jupons, ce serait une affaire bien plus sérieuse qu'avec le régent, à cause de l'inimitié des deux familles et de la puissance du syndic. Vraiment, elle n'avait que deux amis pour la consoler. Turc, le Saint-Bernard, auquel elle portait chaque jour sa pâtée, qui pleurait de joie en la voyant approcher. Et le bon Gaspard, dont elle n'avait aucune méfiance. Celui-là ne cherchait querelle à personne, ne roulait pas en la regardant des yeux de bête féroce, et s'en allait son petit bonhomme de chemin, d'une humeur toujours égale. Un peu trop triste seulement, comme s'il gardait pour lui seul un gros chagrin. Sans indiscrétion, sans maladresse, sans empressement excessif, il tâchait simplement de lui être agréable en toute occasion. Comme les autres, il se trouvait souvent, par hasard, auprès d'elle, mais toujours dans un moment opportun, pour la décharger d'un fardeau de linge les jours de lessive, ou pour porter son sillon plein quand elle venait de traire. Il rendait ses menus services sans avoir l'air d'y toucher, avec des mots gentils, en s'efforçant de lui parler des choses qui l'intéressaient. De son père, du pays de sa naissance, des souvenirs de là-bas. Les autres, quand ils l'interrogeaient, laissaient toujours percer leur curiosité plutôt malveillante. Aussi évitait-elle de leur répondre, si bien que le père Baudruse, les jours où il voulait rire, lui disait « Toi, tu veux nous faire croire que tu es tombé de la lune ?» Avec Gaspard, au contraire, elle se montrait plus confiante. Il put ainsi apercevoir, dans l'éloignement, dans l'inconnu, une enfance singulière, telle qu'on n'en voit pas dans nos pays, avec des revirements de fortune et des aventures comme il y en a dans les livres. Ce furent des demi-confidences qu'il garda jalousement, d'autant plus précieuses pour lui qu'il les possédait seules, et qu'elle nimbait sa cousine d'une auréole de mystère. Parfois aussi, quand il la voyait confiante ou mélancolique, il lui demandait ce qu'elle pensait, et ils avaient ensemble, au crépuscule, dans la cour pleine d'ombre, au bord de l'étang, derrière la palissade du jardin, de courts dialogues pleins de choses. « On ne dirait pas que vous vous plaisez chez nous, ma cousine. » Elle répondait avec franchise, « Mais je ne sais pas encore. » « Vous comprenez, c'est si différent. » Il poussait un gros soupir. « Sans doute, vous n'êtes pas faite pour notre vie. » Douce et résignée, elle faisait « Il faudra seulement que je m'habitue. » « Je vous plains souvent quand je vous vois triste. » « Oh, moi je ne me trouve pas à plaindre. » Il secouait sa tête hésitante. « C'est égal. Il me semble que vous devriez être plus heureuse. » Jamais il n'osait aller jusqu'au bout de sa pensée. Et si cela pouvait dépendre de moi? Naturellement, ils cachaient leur amitié à Pierre, qui les épiait comme un vrai garde-champêtre. Du reste, ils continuaient à mener la même vie. N'ayant plus le prétexte de la chasse, ils travaillaient un peu sous l'œil de son père, qui savait encore quelquefois le faire marcher. Mais, sitôt la journée finie, il courait à la pinte, pour rentrer tard, ivre et furieux. Presque chaque nuit, dans la chambre où Julie l'attendait, il y avait des bruits de querelles qui réveillaient la ferme. Louisita, dans son lit, pouvait entendre les cris de la femme, les hoquets du mari, en sorte que sa terreur de Pierre augmentait de jour en jour. Elle seule, pourtant, aurait pu quelque chose sur lui. Quand il la rencontrait le matin, après l'avoir empêchée de dormir par un tapage dont il conservait le souvenir confus, il allait se cacher dans un coin, avec des airs honteux de chien coupable. Le père Baudru se désespérait. On a beau lui répéter qu'il va à sa ruine, c'est comme si on chantait. Moi, je lui ai dit tout ce qu'on peut dire. Un garçon qui se saoule ainsi, à son âge, il est foutu. Il faudrait que d'autres tâchent de le raisonner, d'autres qui l'écouteraient. Moi, je ne peux plus. Et toi, Julie ? Julie, qui pleurait toutes ses larmes, sifflait entre ses lèvres minces. « Oh, moi !» Le vieux reprenait en feignant de chercher. « Gaspard, il l'enverrait promener. Le pasteur aussi. Alors il faudrait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui, moi. » C'était toujours en présence de Louisita qu'il revenait sur cette idée. Il terminait invariablement en plantant sur elle ses petits yeux qui perçaient comme des vrilles, si bien qu'elle finit par comprendre l'invite. D'un autre côté, comme pour lui intimer la défense de se mêler de ses affaires, Julie ne manquait jamais d'ajouter « Ah, rien n'y ferait. D'ailleurs, ça ne regarde personne. » En sorte que Louisita ne savait quelle partie prendre. Un matin pourtant, après une nuit où elle avait entendu les coups sonner sur les épaules maigres de Julie comme sur un coffre vide, elle prit sa décision, réunit son courage et aborda bravement Pierre. « Oh, mon cousin, comme c'est vilain d'aller ainsi tous les soirs à l'auberge, et de rentrer à des heures, et de faire un bruit qui empêche les gens de dormir. Vous ne pourriez donc pas rester quelquefois avec nous, dites ?» Elle avait tant d'émotions que sa gorge palpitait sous son fichu de laine. Quand elle eut fini, pour être brave jusqu'au bout, elle regarda son cousin bien en face, avec ses deux yeux noirs qu'elle cachait d'habitude, et qui l'éblouirent. Aussitôt, il passa par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, baissa la tête, se mit à tirailler sa barbe comme s'il voulait l'arracher poil après poil. En le voyant si humble, si craintif, Louisita se sentit toute heureuse, un peu fière et très vaillante. Elle répéta « Si vous étiez bien gentil, mon cousin, vous me promettriez de renoncer au cabaret, ce soir, et demain, et souvent, et de rester avec nous. » Sans la regarder encore, il balbutia « Si ça vous faisait plaisir. » Elle répondit gaiement « Bien sûr que ça me ferait plaisir, comme à tout le monde. » Il releva les yeux et l'enveloppa d'un regard qui de nouveau l'effraya. « Oh » fit-il, « tout le monde, ça m'est égal. » Et la fixant avec insistance. « Mais vous, c'est vraiment vrai que ça vous ferait plaisir ?» Avec moins d'assurance et de contentement, elle répéta « Sans doute, puisque je vous le dis. » Pierre eut une espèce de sourire qui n'en était pas un. « Eh bien, on verra ça. » Et il cessa de boire. Il faut croire que le malheureux avait l'ivresse dans le sang, puisqu'il ne mit plus les pieds au cabaret, ni dans les caves, presque comme s'il eût signé la tempérance. Il gardait les yeux fous, la tête en feu, les sens en délire. Souvent, dans la campagne nue et gelée, on le trouvait gesticulant tout seul, comme s'il se fût disputé avec un invisible ennemi, tandis qu'en compagnie, il restait silencieux, roulant des pensées qu'il ne voulait confier à personne. S'il rencontrait Louisita, le sang lui montait au visage, sa gorge se séchait, il ne trouvait pas deux mots à dire. Du reste, la jeune fille l'évitait, par instinct, avec une peur sourde, sans raisonner sa répulsion. Quand il essayait de l'approcher pendant l'éveillé, ou se trouvait assis à côté d'elle, elle avait toujours un prétexte pour s'éloigner ou changer de place, et ses yeux cherchaient Gaspard, comme pour demander protection. Naturellement, Julie s'apercevait de tous ces manèges. Quand elle vit son mari rester à la maison, elle devina que ce n'était pas pour lui faire plaisir, et devint plus méfiante et plus jalouse. Elle ne gagna pas grand-chose à ses nouvelles habitudes. Si Pierre la laissait dormir, au lieu de la rosser toutes les nuits, il se dédommageait le jour. C'était à propos de rien, n'importe où, à la cuisine devant la servante, dans la cour devant les valets, des flots d'injures, des bourrades, des gifles qui lui laissaient la joue en feu, la rancune au cœur. Elle ne pleurait plus, elle ne se plaignait pas, mais de terribles colères s'amassaient en elle, montant avec la tempête qui battait l'âme obscure de son mari. Le père Baudruse, lui aussi, avait ses idées, mais il les chassait, avec l'optimisme entêté des vieilles gens qui ne veulent plus se laisser troubler par la vie. « Ces histoires-là, se disait-il sans spécifier davantage, n'arrivent pas chez les gens simples, chez les travailleurs. Comme s'il y avait des vignes que la grêle épargne, comme si le vent choisissait celles qui sont sur son passage. Dans sa longue vie, il avait vu bien souvent l'orage s'abattre sur ses récoltes. Et s'il savait comment la foudre frappe et sillonne un vieil arbre, il ignorait encore, avec toute son expérience, qu'elle peut aussi brûler le cœur des hommes. Les petits scandales habituels de la ferme ou du village, d'accord avec ses propres souvenirs, le rassuraient. C'était quelques servantes engrossées par un valet, quelques femmes jalouses dont les criailleries ameutaient ou amusaient les voisins. Bref, un tapage comme on en entend dans les poulaillers. Ça ne tirait pas beaucoup plus à conséquence et ça finissait toujours par s'arranger. Aussi observait-il, sans trop d'inquiétude, le drame qui se jouait chez lui. Seule l'ivrognerie de Pierre l'avait troublé vraiment, parce qu'elle rendait son fils paresseux et dépensier. Maintenant que Pierre ne buvait plus, il n'y avait qu'à avoir venir, comme il disait. Il eut pourtant le sentiment que ça se gâtait pour de bon, quand un jour, sa bru le prit à part et se mit à lui dire « Écoutez, père, j'ai à vous parler. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle l'emmena dans le pré derrière l'étang, malgré la neige où leurs sabots enfonçaient. Il la suivait, étonné de la voir si émue, elle qui devait être raisonnable, avec le poids qu'elle portait. « Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? » répéta-t-il. Julie s'assura que personne ne pouvait les entendre et répondit, la voix contenue, « Il y a que ça ne peut plus durer ainsi. » Pour gagner du temps, le vieux feignit de ne pas comprendre. « Et quoi ?» La jeune femme tendit le poing vers la maison. « Oh, vous savez bien ce que je veux dire !» Il continuait à jouer l'étonné. « Moi ? Qu'est-ce que tu veux que je sache ?»« Si, si, si » affirma-t-elle. Elle éclata en sanglots, en se cramponnant à la palissade, sa lourde taille toute secouée de convulsions. « Ah bien ! Ah bien !» murmurait le vieux, debout devant elle, les mains dans ses poches. « Si c'est pour ça que tu me déranges !» D'un grand effort de volonté, Julie refoula ses larmes et reprit, en se redressant, « Vous voyez bien, tout le monde y voit, dans la maison. Depuis que cette chenoille est arrivée de là-bas, Pierre me fait une vie impossible, quoi. Il ne pense qu'à trotter derrière ses jupes, comme un chien derrière une chienne. Et Gaspard aussi, et tout le village. Une vraie peste qui est tombée sur nous. Les autres, ça m'est égal. Tout de même, c'est dur, quand on est honnête, de vivre à côté d'une... Mais mon homme est à moi, je le veux, et je vous dis qu'il faut que ça finisse. Il faut qu'elle parte, qu'elle retourne dans son pays, qu'elle s'en aille où elle voudra. Sinon, c'est moi qui file. » Le père Baudruse avait écouté sans un geste. « C'est toi qui file, » répéta-t-il. « C'est toi qui file. Tu dis comme ça, mais on verra voir. On est marié ou on ne l'est pas, que diable !» Julie leva ses longs bras maigres vers le ciel, comme pour l'invoquer dans un geste tragique. « Mariée ? C'est pire que si je ne l'étais pas. Je suis une servante qu'on a le droit de battre, voilà tout. Une servante ?
Il n'y en a pas une qui supporterait ce que je supporte. Et je vois bien que la nôtre ne voudrait pas être à ma place. Il n'y a qu'elle qui a un peu de pitié de moi, quand Pierre me traite comme la dernière des dernières. Et puis les injures, les coups, la honte, ça n'est pas tout. Mais il me fait peur, comprenez-vous? Chaque fois qu'il entre dans la chambre, j'ai froid dans le dos comme s'il allait faire un mauvais coup. » Le père Baudruche l'interrompit en secouant la tête, sans sortir les mains de ses poches.
« Ça, c'est des folies, des idées de femme enceinte. »
Julie riposta, très sombre, comme si elle voyait des choses futures.
« Ça en a l'air, peut-être, mais ça n'en est pas. Il y a quelque chose sur cette maison, voyez-vous, je ne sais quoi. Un mauvais sort, qui ne s'en ira qu'avec celle qu'il a apportée. Aussi, gardez-la si vous voulez, moi je ne reste pas. Je patienterai jusqu'après mes couches, parce qu'à présent je n'ai pas beaucoup de force. Mais après, si elle reste, je pars. »
Ses yeux, son visage, son attitude exprimaient une résolution si ferme que le père Baudruche comprit que ça n'était pas des paroles en l'air. Il se mit à grogner
« Non de non, de non de non !»
Et il s'éloigna, sans en vouloir écouter davantage. Chapitre 5. S'il ne répondit à sa bru que par une enfilade de « non de non », le père Baudruche n'en ouvrit pas moins ses petits yeux perçants, qui savaient si bien observer les signes imperceptibles des maladies de la vigne ou le ciel où le temps change. Et il dut bien reconnaître que ce qui se passait sous son toit n'était pas naturel. Les fureurs concentrées et les caprices d'humeur de Pierre, la mélancolie de Gaspard, la rancune silencieuse de Julie, tout cela lui apparut comme un gros nuage à l'horizon qu'il fallait voir venir. On examine le ciel avant la moisson, n'est-ce pas? Et quand il se couvre, on se dépêche de rentrer la récolte. Or, plus il regardait, plus il réfléchissait, plus il jugeait que le conseil du pasteur de marier sa nièce était un conseil rempli de sagesse. Seulement, comme on dit, pour se marier, il faut être deux. Parmi les garçons qui se pourléchaient les babines en regardant la petite, lequel irait jusqu'à l'épouser sans autre dot que ses satanés yeux noirs et sa peau blanche? Les jeunes gens ont beau avoir la folie en tête, il y a derrière eux les parents, qui sont avisés à leur place et qui ont leur mot à dire. Pourtant, il y en avait un qui aurait bien fait l'affaire, le régent. Pas de famille pour mettre des bâtons dans les roues. Un peu de bien quelque part, disait-on, dans le gros de veau. Sans compter qu'il n'était pas cloué au village comme les autres. D'un moment à l'autre, il pouvait partir avec sa femme et débarrasser la commune du danger des yeux noirs. Quand il se fut bien persuadé que c'était là le meilleur moyen d'en finir, le père Baudruche guetta le pasteur, qui continuait à venir chaque semaine faire sa visite à la mère Lancy, gonflée comme une outre par l'hydropisie et dont la force de résistance stupéfiait le médecin. « Eh, bonjour, monsieur le pasteur. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas arrêté chez nous. »
« C'est vrai, monsieur Baudruche, il y a tant de malades cet hiver qu'on est toujours par voie et par chemin. »
« Êtes-vous bien pressé aujourd'hui ?»«
Pas tant. »
« Eh bien, entrez un moment, un doigt de vin vous réchauffera. » Le pasteur fit quelques compliments, mais finit par céder, et les deux hommes s'attablèrent à la cuisine, devant la vaste cheminée où fumaient les jambons, le lard, les saucissons de la dernière boucherie. Justement, les garçons étaient à l'autre bout de la propriété, et Julie au village. Il n'y avait à la maison que Louisita, tout en mitouflée. Ce fut elle qui, sur un signe de son oncle, apporta une bouteille avec deux verres, après quoi elle disparut. Lentement, avec les précautions habituelles, le père Baudruche déboucha la bouteille, essuya le goulot, remplit les verres où le vin blond semblait semer en tombant des milliers de minuscules étoiles, et l'on trinqua.
« À la vôtre, monsieur le pasteur !»
« À la vôtre, monsieur Baudruche. »
« Comment le trouvez-vous, celui-là ? »
Excellent. N'est-ce pas? Le vin, voyez-vous, il faut savoir le soigner. Il y en a qui croient qu'il se fait tout seul. Ah bien, oui, c'est un souci pour toute l'année. Quand il est dans la grappe, on a peur du gel, de la sécheresse, de la pluie, du soleil. Quand il est en cave, c'est une autre histoire. Il faut le surveiller, le branter, le transvaser. Et si l'on a seulement le malheur de le mettre en bouteille par un mauvais jour, le voilà qui se trouble et perd sa couleur.
« Chacun a ses soucis, » fit le pasteur.
Le père Baudruse, qui tout en parlant cherchait à entrer en matière, saisit la balle au bon.
« Ah ! Si on avait que ceux de la campagne ! On les connaît, ceux-là. On y est habitué de vieille date. Mais il y a les autres. Ceux qui vous tombent sur la tête au moment où on s'y attend le moins. Moi, j'en ai un, que vous savez bien, monsieur le pasteur. » Et je pense souvent à ce que vous m'avez dit une fois. Vous vous rappelez?
À propos de quoi, monsieur Baudruse?
De ma nièce, pardine. Vous m'avez dit, il faudrait la marier. C'est vous qui m'avez donné cette idée. À présent, je vois bien que c'est une bonne idée.
Le pasteur approuva de la tête.
Je savais bien ce que je vous disais, monsieur Baudruse. Voyez-vous, cette jeune fille est trop jolie pour attendre. Elle tourne la tête à tout le monde. Quand on saura qu'elle est fiancée, les garçons n'y penseront plus.
Seulement, voilà, il faudrait trouver un bon parti. Un brave garçon qui voudrait l'épouser comme elle est. Pas un paysan comme nous, qui avons toujours besoin que notre femme apporte son morceau de terre. Quelqu'un d'instruit, plutôt. Parce que la petite est une fille mouche. Pas plus faite pour travailler au champ que moi pour écrire dans les feuilles.
Vous n'en connaîtriez pas un comme ça, monsieur le pasteur, vous qui connaissez tant de gens?
Le pasteur chercha un instant et dit
« Il y aurait le régent. »
« Tiens !»
exclama le père Baudruse en prenant son air le plus candide. « Voilà une idée qui ne me serait jamais venue. » Puis il fit une grimace de doute, l'air perplexe.
« Seulement, il y a une chose, c'est sa bataille avec Pierre. »
Depuis ça, il ne vient plus chez nous. Il en tenait pour la petite, c'est sûr. Mais peut-être qu'à présent, il n'y pense plus.
Ne croyez pas cela, monsieur Baudruse. Il est toujours aussi distrait quand elle vient au culte. Et quand elle n'y vient pas, il a l'air de l'attendre, positivement.
En tout cas, c'est bien ce qu'on pourrait trouver de mieux.
Il hésita un instant. Et ajouta, en baissant la voix, d'un ton confidentiel.
D'autant plus qu'il ne restera pas l'année prochaine à Borin, je le sais. Il emmènerait sa femme. Cela vaudrait mieux pour tout le monde.
Bonne affaire, ça,
dit le père Baudruse, content de voir qu'une fois de plus il avait calculé juste. Il y eut un silence. Le pasteur attendait. Enfin, le père Baudruse lança sa proposition.
Alors, voyons voir, monsieur le pasteur, est-ce que vous vous chargeriez de lui toucher un mot de cette affaire au régent?
Moi? Ça ne s'arrangera pas tout seul, pas? Comme je vous l'ai dit, il ne vient plus à la ferme par rapport à Pierre. Si vous vouliez, comme ça, en causant, sans avoir l'air d'y toucher, lui donner l'idée, lui souffler, enfin quoi, lui faire comprendre que s'il voulait, on pourrait s'entendre.
De nouveau, le pasteur réfléchit, le front plissé d'une ride perplexe. L'affaire lui semblait délicate, et même à certains égards, dangereuse. Mais, en raison même de ses difficultés et de ses dangers, il crut que le devoir lui ordonnait d'y jouer un rôle. Parfois, en intervenant à propos, avec tact et prudence, on évite bien des malheurs. D'autre part, il n'était pas fâché de voir le père Baudruse, libre penseur avéré, recourir à ses bons offices. Comme nul n'est tout à fait à l'abri de la tentation, il ne résista point à celle de se faire un peu prier.
« C'est très grave ce que vous me demandez là, » dit-il en hochant la tête.
« C'est très grave. Songez donc, quelle responsabilité !» Et vous savez qu'en principe, je n'aime point à me mêler des affaires privées de mes paroissiens. »
Tout fin matois qu'il était, le père Baudruse crut que le pasteur allait lui refuser son concours. Il prit peur et il insista.
« Enfin, monsieur le pasteur, je vais tout vous dire. Ça restera entre nous deux, bien entendu. Mais il faut que vous sachiez la vérité vraie. Cette petite est un vrai fléau dans la maison. Pierre, malgré sa femme qui va bientôt accoucher, tourne autour d'elle comme un véritable animal. Gaspard ne dit rien, mais je crois qu'il en tient comme l'autre, car il est tout chose et il a des airs de saule pleureur. Ma Bru se bouraude comme si elle avait un essaim de guêpe après elle, et je ne sais vraiment pas de quoi elle serait capable. Je ne dis rien des garçons du village, mais je vois bien que la bataille du régent pourrait recommencer avec le fils au syndic ou avec un autre. Alors vous comprenez, moi, je voudrais qu'il me fiche la paix. C'est comme s'il n'y avait que moi qui aurais du miel pour attirer tous les frelons du pays. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je ne peux pas renvoyer la petite, on dirait que je l'ai jetée à la rue. D'ailleurs, ça n'est pas sa faute si elle les met tous dans cet état-là. Elle n'y comprend même rien. Je vous réponds que c'est une brave fille, qui n'a point de malice. Elle ne demande qu'à travailler et à rester tranquille. C'est pourquoi il faut la marier, et le régent ferait très bien l'affaire. »
Le pasteur avait écouté avec une grande attention. Il leva les yeux au plafond, se mordilla les lèvres et finit par répondre
« Eh bien, monsieur Baudruse, j'essaierai. Le cas est assez exceptionnel pour que je déroge à mes règles de conduite. Voici ce que je vous propose. Le régent vient à la cure le samedi pour le choix des psaumes. Je le sonderai. Et si vous vouliez venir me voir dimanche après le culte, nous en reparlerions. »
Il avait pesé sur les mots « après le culte ». Le père Baudruse fit une grimace intérieure. Il n'allait à l'église que deux fois par an, le jour du vendredi saint et le dimanche du jeûne fédéral. La petite ruse du pasteur pour l'y attirer était cousue de fil blanc. Mais il savait qu'on n'a rien pour rien dans ce monde, et il accepta le marché. Somme toute, il s'en tirerait avec un petit sacrifice d'amour-propre. Si l'affaire réussissait, elle ne lui aurait pas trop coûté cher.
« Entendu, monsieur le pasteur, et merci de votre complaisance. »